Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi de 19h15 à 20h juste, et sur internet, radiocapi.net.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Aujourd'hui, nous allons parler de la réintégration sociale des migrants et des déplacés internes. Le mercredi 18 décembre 2019, les Nations Unies célèbrent la Journée internationale des migrants. En RDC, l'Organisation internationale des migrations assiste les migrants qui désirent retourner au pays, mais aussi les personnes déplacées internes. Alors pour cette année 2019, le thème choisi est la cohésion sociale. Comment réussir le retour des migrants et maintenir la cohésion sociale entre les personnes déplacées et leur communauté d'accueil? Quels sont les différents préjugés sur les migrants et que peut être leur contribution au profit de leur pays d'origine, mais aussi dans leur pays de destination? Eh bien, nous aurons des réponses à toutes ces questions avec notre invité. Il s'agit de Monsieur Joybert Rukengwa, chef des bureaux de l'OIM dans la province du Tanganyika. Joybert Rukengwa, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Monsieur Ludi Kachama.
Bien,
l'organisme. Bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, comme je le disais tout à l'heure, les Nations Unies vont célébrer la Journée internationale des migrants le 18 décembre autour du thème, cette fois-ci le thème choisi est la cohésion sociale. D'abord, la première question est de savoir, quand on parle des migrants, de quoi s'agit-il? Qui est un migrant?
Oui, Monsieur Judy Kachama, je voudrais avant tout, avant de répondre à la question de qu'est-ce qu'un migrant, présenter plus ou moins l'Agence des Nations Unies pour les migrations, qui est l'OIM aujourd'hui, fondée en 1951 et avec des mandats de pouvoir assurer la gestion humaine ordonnée de la migration, de promouvoir la coopération internationale sur les questions des migrations, de pouvoir aider à la recherche des solutions pratiques aux problèmes d'immigration et aussi de fournir une assistance humanitaire aux migrants dans les besoins, y compris ceux issus de la migration forcée. Alors, à cela, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un migrant. C'est toute personne. Un migrant, c'est toute personne qui quitte son lieu de résidence habituel pour s'établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons, soit dans une autre région à l'intérieur du même pays, soit dans un autre pays franchissant une frontière internationale. En gros, c'est les migrants, c'est un terme générique qui regroupe plusieurs catégories de personnes qui ont fait des mouvements, soit à l'intérieur, soit au-delà de la frontière de son pays.
Alors, quelles sont ces différentes catégories de personnes qui bougent d'un lieu à un autre?
Il y a en effet la catégorie qu'on appelle les gens issus de la migration forcée, comme les personnes déplacées internes. C'est des gens qui sont issus de cette migration forcée. Les réfugiés, par exemple, ils font partie de la catégorie des migrations forcées, bien qu'ils ont un statut plus ou moins spécifique et juridique bien défini, mais ils font partie de ceux qui sont issus de cette catégorie de la migration forcée. Il y a la migration de la main d'œuvre. Il y a les migrants économiques, des gens qui migrent pour des recherches d'avantages économiques dans un autre pays ou dans un autre lieu dans son même pays. Il y a la catégorie des migrants réguliers ou des migrants irréguliers, comme ce que nous sommes en train d'enregistrer ces derniers temps, tous les Africains qui sont en train de vouloir quitter l'Afrique pour aller en Europe, tous ces gens qui sont des sans-papiers. Donc il y a toute une diversité de catégories de personnes qui sont effectivement ou qui entrent dans la définition des migrants.
Alors, on parle souvent des migrés, immigration et émigration. Quelle est la différence entre les deux concepts, immigré et émigré?
On parle d'une personne qui émigre, c'est par rapport à son pays de départ. C'est une personne qui quitte son pays ou qui quitte un endroit où il habitait, où il résidait habituellement pour aller vers un autre endroit. Et tout de suite, nous allons tomber dans la catégorie des immigrés, c'est par rapport au pays ou à l'endroit d'accueil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si moi je quitte la RDC par exemple, et que je vais pour des raisons plus ou moins économiques, pour des raisons même forcées, je vais en Europe, je suis un émigré par rapport à la RDC. Mais je serai un immigré par rapport à l'Europe, par rapport à la Belgique, par rapport à la France. C'est un peu ça la différence qui réside.
D'accord. Alors pour cette année, le thème choisi est la cohésion sociale. De quoi on pense, de quoi s'agit-il quand on parle de la cohésion sociale par rapport aux migrants?
La cohésion sociale en soi, l'expression cohésion sociale, ça désigne un état d'une société. En fait, c'est un état d'une société ou d'un groupe. Ça peut être une organisation, ça peut être une seule personne, où la solidarité est forte et les liens sociaux sont intenses. Et quand on voit la cohésion sociale, généralement, il s'accompagne toujours d'une facilité d'intégration. Il y a un attachement à un groupe, un attachement à des valeurs, un attachement à la communauté. On essaie, un migrant pratique plus ou moins une cohésion sociale facile quand il s'attache déjà au milieu où il a migré. C'est comme par exemple les personnes déplacées qu'on assiste actuellement ici dans les Tanganyika. Oui. Et ces personnes déplacées, certains d'entre eux nous disent que non, ils ne rentreront plus chez eux parce qu'ils pensent que là où ils se sont déplacés, ils bénéficient d'une cohésion sociale de la communauté d'accueil. Ça veut dire qu'ils partagent déjà les mêmes valeurs, ils partagent déjà les mêmes souffrances, ils partagent même la joie ensemble avec la communauté. Et vous voyez, dans la précarité de la vie actuelle, par exemple ici dans les Tanganyika où nous vivons, où l'insécurité alimentaire est vraiment accrue, il n'y a pas une différence entre par exemple la communauté et la personne déplacée, et tous ont la même lutte. Tous se retrouvent. Tous ont le même objectif. C'est d'avoir un lendemain meilleur. Alors, les peu d'opportunités qu'il y a, ils essayent plus ou moins de se les répartir équitablement. Et nous, en tant que cette agence chef de file de la migration, on essaye de les accompagner.
Alors, Quelles sont les techniques? Alors, Joëbert, dites-nous, par exemple, comment réussir cette réintégration sociale et la cohésion sociale, par exemple, des migrants, des personnes, parlons d'abord des déplacés et des réfugiés.
Oui, particulièrement pour les déplacés, c'est tout un processus pour réussir cette cohésion, parce que l'intégration en soi, c'est un processus. C'est un processus à double direction. D'un côté, il y a le migrant, de l'autre côté, les migrants ou la personne déplacée, de l'autre côté, il y a la société dans laquelle la personne vit. Ça veut dire que les migrants ou la personne déplacée a un comportement et il a aussi des concessions à faire pour qu'il soit accepté dans cette communauté. Et la communauté aussi a des comportements à pouvoir montrer, peut-être à afficher aux migrants et à concéder pour que la personne déplacée se sente à l'aise dans la communauté. Mais comme je l'ai dit, il y a des valeurs culturelles généralement, il y a des valeurs sociales que l'on essaie plus ou moins de pouvoir mettre en avant. Dans la réussite de tout cela, il faudrait exploiter les points communs qu'il y a et de pouvoir laisser les divergences, les points qui les séparent, mais d'aller vers les points qui les amènent à s'entendre, les points de convergence entre ces deux communautés. Oui. Pratiquement ici dans les Tanganyika, comme j'avais donné cet exemple, nous avons pensé comme OIM a des activités dans des sites de déplacement, dans les zones de retour. Il y a ce qu'on appelle des projets à impact rapide qu'on essaie de mettre en place. C'est des projets communautaires. Donc il y a ces projets communautaires où on va par exemple construire des sources d'eau, réhabiliter des sources d'eau, construire des puits, lesquelles infrastructures vont servir et la population déplacée qui vivent dans les sites et la communauté locale. Et très facilement, ils auront un intérêt commun à pouvoir sauvegarder ces infrastructures.
Oui, généralement, prenons
la réhabilitation des écoles.
Oui. Prenons les cas des déplacés dont vous faites allusion. Ces personnes ont quitté leur milieu de vie depuis plusieurs jours ou peut-être des années. Et quand elles vont retourner, bon, elles vont plus retrouver peut-être leur maison, les cases. Il n'y a plus des champs comme c'était auparavant. Donc, elles doivent refaire la vie. Alors, comment réussir cette intégration et pour qu'il y ait aussi et maintenir aussi la cohésion sociale?
Oui, général, je veux peut-être plus ou moins définir les différents niveaux. Quand on parle de l'intégration, généralement, c'est comme je l'ai dit, c'est un processus. Et on parle de l'intégration, c'est seulement si la personne déplacée n'a pas souhaité retourner chez lui où il a perdu tout. La personne souhaite intégrer les milieux locaux, les milieux de déplacement. Il souhaite y rester. Mais si on parle effectivement de pouvoir assister la personne dans son village de retour, ça n'est plus une intégration, mais peut-être on va parler maintenant de la réinsertion et tout dans son milieu de retour. Mais généralement, ce qui est fait, et comme notre stratégie, c'est de pouvoir en effet accompagner tout ce retour, que ce soit la partie retour, que ce soit la partie réinstallation ou la partie intégration locale. Ce qui est fait, c'est que nous partons de la collecte des intentions. Il faudrait savoir que toute volonté, toute action que la personne déplacée pourra faire pour pouvoir décider soit d'intégrer localement, soit de retourner ou soit de se réinsérer doit être volontaire. Ça doit aller sur une base de volontariat. Et nous essayons de faire des évaluations, soit dans les zones de retour, soit dans la zone d'intégration. Qu'est-ce qu'il faut pour que la personne puisse vivre plus ou moins dans la dignité, puisse rester dans les normes et que cette réintégration ou cette réinsertion ou ce retour puisse réussir durablement. C'est ça la grande question. D'abord, il faudrait que les questions qui ont été à l'origine du déplacement soient répondues. Si, par exemple, c'était de l'insécurité et si c'est, par exemple, des conflits communautaires, on doit aller à la base, à la source pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là afin que le retour soit durable. Sinon, l'intégration ou le retour ne sera pas durable.
Voilà, sinon
généralement, on les appuie avec la construction des abris. Généralement, on les appuie avec le renforcement d'infrastructures sociales des bases, comme les centres de santé, les écoles. On les appuie avec la construction des puits, la construction des centres de santé, mais aussi pour leur intégration économique, leur insertion économique, il y a des activités génératrices de revenus qui leur sont attribués. Il y a un suivi dans les cadres des activités champêtres, comme ici, la population en majorité, c'est une population agricole. Oui. Généralement, il y a ce qu'on appelle des champs communautaires, des activités à champs communautaires, où on va former des coopératives agricoles et où les déplacés et autochtones, communautés, se mettent ensemble pour cultiver environ 4 hectares. Et pour lesquels les résultats ou la récolte sera partagée équitablement par les mêmes personnes. Vous voyez déjà que nous mettons en place une stratégie qui les amène à pouvoir adhérer tous à un même objectif.
Bien. Nous parlons aujourd'hui de comment réussir la réintégration sociale des migrants et des déplacés internes avec Joébert Rukengwa, chef de bureau de l'OIM Tanganyika. Nous avons en ligne Madame Mudinga Sadiki. Elle est présidente des déplacés internes du site Kikumbé, à environ 18 kilomètres de Kalemi. Elle va s'exprimer tout à l'heure. En Lingala, elle va poser sa question. Vous voulez également intervenir à composer le 081 890 63 94.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Okapi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine « Droits et citoyenneté ». Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30, tous les jeudis à 13h30.
Comment réussir la réintégration sociale des migrants et des déplacés internes? Madame Moudinga Sadiki, bonjour.
Bonjour.
Osa, présidente, il y a déplacé interne et un site, il y a Kikumbe, à environ 18 km de Kalemi. Moutouna Nayo, et Zanini.
Moutouna Nangai.
Moutouna, est-ce que Osa, Moutouna, Osa, na témoignage, Olingue Opesa?
Nazana ba témoignage na ningina pesa vino boyo kandenge toza ko vivre biso na bakana ndenge difficulté zali na ndenge basalise biso.
Lo bakasi situation ezande nini?
Biso toza kombo na ngai za mzinga Sadiki Martina toza bakimbizi touta iko na basan 70 km toyaki wana na Kikumbe tovandi wana ba onje basalise kibiso OIMP salisa kibiso na kawana. Et celle-ci, c'est ba formation, ndenge ya kuvanda na baka, ndenge ya kotonga bandako.
Bosali bambula boni na kan wana ya Kikumbe.
Donc, ton ngito si sa deja angoyo.
Ok, mais si ko bosi bozongi deja na panabino?
Nano tozongi te panabiso kuna difficulté zali, gouvernement nde mikoloye, tindi nde basoda kuna bagende kosala sécurité. Po oya pembeni nde basi bazongi, mais panabiso kuna mwaito zonga izate. Kuna bambote baza kuderanje o mundusi nani koloni na bango wana mundusi ndee sika afandi kuna nanzela na biso maito kene kuna basoda bazo bundatile loo bitumba nani ezo ya tina 18 kilometre wana ezo ya donge kuna difikiteza ni maito zonga kuna ezate guvernemae moku alobia bengisi ba chef de groupema na biso poto zana 4 groupema kuna ipana biso ba bengisi bango na biro kuna ba evisi ke bazela nano basoda basi sabati ya kimia aprende toko zonga ndee tozana na katile loo nano tozongite.
Et pas la vie, nous avons un territoire, Nini.
Territoire Académie.
Ok, na, territoire Académie, d'accord. Alors, si entre-temps, on a quand, vous savez, déjà 2 ans, on a site à Kikumbe, ONG, Zosungabino, OIM, Pelokola, Bozo, Sala, Basungibino, Nini, par exemple.
OIM, et on a vu ce mandat qui est bas, pour tout ça, il y a des difficultés, tout ça, il y a un mandat qui est matiti. Matiti, on a dit qu'on 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 batongeli biso bandako bateli biso ba espace ya malamu basali biso ba WC basali ba HR ba pesi bato ba plus vulnerable basali si bango donc na ba formation basali biso ba formation ndenge ya kovanda na bato na kapo kana biso wana tozana bato tovandi na bantu pe na batoa tosangisani wo balingaki ba désordre ya baninga na bango wana te baaki wana tosangani tovandi wana me basali biso ba formation bozotiebe batie biso kimia tolongoli ba conflit to vandi bien mais oyé mais celle si biso mingi si le loyo to vandi na biso kimia problème ezate ba wese ba douche ba kit pepe ba celle si biso bilo ko ebele kuna na kati.
Ok, merci beaucoup Madame Moudinga Sadiki. Nous rappelons qu'elle est présidente des déplacés internes du site Kikumbe, environ 18 km de Kalemi. Alors, elle nous dit qu'ils sont dans ces camps depuis 2 ans, mais ils ne peuvent pas rentrer dans leur milieu d'origine à cause des impératifs sécuritaires. Il y a encore de l'insécurité de l'autre côté, mais au moins, ils ont été assistés par d'autres ONG, parmi lesquelles l'Organisation internationale des migrations, avec des bâches et autres effets pour leur permettre de vivre quand même dans des bonnes conditions. On va accueillir M. Ngandou qui nous appelle de Kinshasa. Ngandou, bonjour.
Bonjour, Jody.
Quelle est votre préoccupation par rapport à la réintégration sociale des migrants et des déplacés internes?
Oui, bon, les migrants, je ne sais pas, les migrants, plus ça concerne les étrangers qui se sont migrés sur notre territoire, je pense que c'est cela. Et puis les déplacés internes, ce sont les nationaux qui n'ont pas traversé des frontières, les non-frontières, mais qui se sont déplacés d'un millier à l'autre pour une raison ou une autre. Mais je voulais un peu savoir, est-ce que c'est plus les déplacés de guerre, hein, qui sont considéré sur le plan international où tous les déplacés, parce que nous voyons nos milieux urbains aujourd'hui être inondés, si je peux le dire ainsi, par les personnes qui pensent venir mener leur vie, qui fuient de milieux ruraux. Est-ce que ces personnes-là font aussi partie de leur cible? Parce que vraiment, à mon avis, dans toutes les provinces, de pareils gens se retrouvent, ils ne savent pas quoi faire, et vous le verrez, avec des projets d'aller, même sans objectif précis, mais de quitter son milieu et aller chercher. Sur tous ces déplacements-là, ça se faisait à l'époque, et je pense que ça se fait aujourd'hui aussi, dans les provinces de Bandundu qui fréquentaient plus Sikapa pour les besoins de chercher le travail. Et nous, au sein des états, on voit aussi ceux qui quittent, qui vous quittent, de fin fois de Mbandaka, voire Bandundu, voire toutes les provinces qui sont ici à Kinshasa pour les raisons de chercher à vivre. Est-ce que tous ces mondes-là font partie des déplacés internes ou ce sont plus ceux qui se déplacent lorsqu'il y a des atrocités? Mais je veux aussi demander pourquoi à chaque fois qu'il y a la guerre, moi je pense que la guerre devrait se faire dans les fronts. Il y a un endroit précis où on doit combattre. Mais pourquoi à chaque fois qu'il y a des guerres, vous verrez les gens qui quittent les villes où ne passent pas, où il n'y a pas la guerre pour se déplacer? Ben, étant donné qu'ils ne sont pas les combattants, ils ne sont pas ciblés, ils devraient rester. Est-ce que le fait d'avoir peur, sachant que vous ne pouvez pas être attaqué, vous vous déplacez parce que vous savez qu'on va vous donner des dons, des trucs comme ça, ne favorise pas aussi que vous voyez un peu cette manière de faire les choses? Moi, je pense qu'on ne peut pas assister à des guerres dans notre pays parce que ce sont les civils qui sont protégés.
D'accord, merci. Monsieur Joébert, vous avez la parole. Vous avez suivi les témoignages la dame, la présidente des déplacés qui nous a du site de Kikoumbé, et puis monsieur Ngandou, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Oui, je voudrais peut-être lever un équivoque par rapport à cette différence qui n'est pas bien faite entre un migrant et une personne déplacée. Toutes les personnes, j'ai cru comprendre qu'il a parlé un peu de l'exode rural. Les gens qui quittent les zones rurales pour aller chercher une vie meilleure dans des nouvelles opportunités. Ces gens sont effectivement catégorisés dans la partie des migrants, mais pas des personnes déplacées internes. Les personnes déplacées internes, c'est des personnes qui sont contraintes. J'ai bien dit que les personnes déplacées internes sont dans la catégorie de la migration forcée. C'est des personnes qui sont contraintes de fuir à l'intérieur de leur propre pays pour différentes raisons. Ça peut être des conflits, ça peut être des violences, ça peut être des violations des droits de l'homme, ça peut être des catastrophes naturelles. C'est des personnes qui sont contraintes à quitter. Les gens qui font de l'exode rural ne sont pas des personnes déplacées internes. Ils ne sont pas des personnes déplacées internes, mais ils sont des migrants, ils figurent parmi les migrants. Et il y a bien des migrants économiques, et on peut être migrant même dans son pays, on peut être migrant à l'extérieur du pays. Mais ne sont pas des personnes déplacées internes. La deuxième question, c'est de dire que effectivement, il y a des personnes qui bénéficient, si j'ai bien compris, je ne sais pas, il y a des personnes qui bénéficient de l'assistance,
Qui se font passer pour des déplacés alors qu'en réalité ces personnes ne sont pas des déplacés, c'est juste pour bénéficier de l'assistance.
Oui. De l'assistance. En fait, ça c'est des effets effectivement qui s'observent surtout dans le cadre du déplacement dans la zone urbaine généralement. Quand vous avez des sites de déplacement, vous avez des personnes déplacées dans des milieux urbains, généralement, vous avez la tendance à avoir d'autres personnes qui viennent se faire passer pour des personnes déplacées alors qu'ils ne sont pas. Mais il y a aussi des critères qui peuvent montrer cela. Premier critère, c'est par exemple la ville ou la partie urbaine dont je parle, vit la même vulnérabilité ou est au même degré de vulnérabilité que les personnes qui sont dans les sites. Vous voyez un peu. si, par exemple, nous sommes, je prends l'exemple du Nord Kivu, où il y avait des sites dans la ville de Goma, et que les personnes aux alentours du site ne bénéficient de rien. Ces personnes n'ont pas du travail, ces personnes n'ont pas de ressources, n'ont pas de revenus, mais chaque jour, ils voient que les humanitaires viennent assister les personnes déplacées dans les sites, eh bien, ils auront tendance aussi à se faire passer pour des personnes déplacées afin d'être assistées par ces mêmes personnes-là.
Monsieur Joubert,
c'est
des choses qui arrivent. Alors, vous avez suivi l'intervention de Madame Muzinga Sadiki, la présidente des déplacés du site Kikumbe, qui dit que depuis 2 ans, elle se retrouve dans ces sites-là et ne peut plus rentrer dans son milieu d'origine à cause des impératifs sécuritaires, à cause de ces conflits entre les Bantous et les Bamboutis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport... Quand il y a encore des conflits, il y a encore des situations comme ça, comment réussir la réintégration dans ces conditions-là?
Comment réussir la réintégration dans ces conditions-là, c'est effectivement bien le travail que nous sommes en train de faire actuellement. Pour un peu circonscrire la situation ici dans les Tanganyika, il y a des axes effectivement qui sont déjà sécurisés et où nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous allons appuyer les retours des personnes déplacées. Et il y a des axes qui ne sont pas encore sécurisés. L'accent est mis effectivement dans les sites qui sont d'abord dans les zones urbaines. Dans les zones urbaines, parce que c'est des sites qui créent beaucoup des problèmes, entre autres la déduplication, entre autres le phénomène de faux déplacés dans les sites de déplacement. Mais si nous allons, par exemple, à Kikumbe, dans des sites qui sont situés dans les périphéries, dans des sites qui sont situés très loin de la ville, et pour lesquels les personnes déplacées n'ont pas encore eu cette intention de pouvoir retourner chez eux, nous sommes en train de discuter avec les chefs de village. Il y a cette partie de discuter avec les chefs de village pour voir la possibilité de pouvoir intégrer ces gens localement. Pour voir la possibilité du chef de village de pouvoir les octroyer de terres, par exemple. Ce sont des possibilités pour que ces gens puissent plus ou moins intégrés localement, avoir des champs où ils peuvent aussi cultiver et rythmer leur vie en tant que, pas en tant que personne déplacée, mais en tant que maintenant personne de la communauté locale.
D'accord.
Tout ça, ce sont des propositions. C'est ce qu'on appelle généralement les transformations des sites de déplacés en villages dans le cadre des solutions durables.
Bien, comment réussir la réintégration sociale des migrants et des déplacés internes? On va accueillir Simon Kalukanda de Kananga et Shadrach Kapso de Mbujimaï. Simon, bonjour.
Oui, bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour également à notre invité.
Vous êtes à Kananga, quelle est votre préoccupation?
Oui, merci beaucoup, je dis, pour cette opportunité. Et j'ai très bien suivi notre invité dans les explications qu'il est en train de donner. Mais moi, je peux, avant de poser une question, vous donner un peu un commentaire, parce que vous aviez tous entendu ce qui s'était passé ici au Kasaï en 2016.
Avec le phénomène Kamuinansapu.
Bien entendu. Ce phénomène Kamuinansapu favorisait beaucoup des déplacés internes. Donc, beaucoup de personnes ont dû quitter leur village pour venir s'installer dans les centres-villes, parce qu'on a pensé qu'au moins dans les centres-villes, une mesure de sécurité est au moins à un bon niveau. Alors, toutes ces personnes-là sont jusqu'aujourd'hui, la majorité continue à traîner même dans des grandes villes comme Kananga, Tsikapa, ils ont les grands Kasaï. Et pourtant, aujourd'hui, il y a déjà une accalmie qui est rentrée presque partout dans tous les villages. Il n'y a plus le désordre. Mais vous vous rappelez bien que dernièrement, nous avons pleurniché ici au Kasaï, surtout à Kananga, la pénurie de maïs, parce que généralement, à Kananga, nous dépendons de villages. Quand on cultive au village, on sait maintenant importer les produits agricoles pour pouvoir, n'est-ce pas, nourrir toute la population. Mais moi, j'attribue aussi cette pénurie à une certaine mesure, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de gens au village qui pouvaient cultiver, suite d'avoir fui, n'est-ce pas, ces crises de Kamuinansapu. Et maintenant que toutes ces personnes sont maintenant au centre-ville. Voilà maintenant la question que je peux poser à l'invité. Parce que l'accalmie est déjà revenue. Comment maintenant, dans une certaine mesure, essayer de convaincre toutes ces personnes-là à retourner dans leurs villages respectifs afin de pouvoir cultiver. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de pénurie, par exemple. Mmh. Comment les convaincre? Pas seulement les forcer, mais essayer de les convaincre pour qu'ils puissent retourner. Parce qu'il y en a qui continuent à vivre dans les centres-villes, mais qui apparemment ne font absolument rien.
D'accord, merci. Oui, rapidement.
Ma deuxième question, s'il vous plaît.
Rapidement, Simon.
Voilà, je demande aussi à l'invité. Je connais une agence des Nations Unies, UNHCR, qui s'occupe des réfugiés et des déplacés internes. Je connais aussi une direction étatique, la deuxième, qui s'occupe des migrants. Alors, quel est le lien de collaboration entre l'OIM, l'UNHCR et la DGM? Voilà un peu quelques préoccupations que j'avais à vous soumettre. Merci beaucoup.
Bien, Shadrach Kapso, vous êtes en Mbujimayi, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody Daniel Kachama, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kapi.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, j'ai des petites préoccupations, par après je vais vous donner un témoignage. La première préoccupation, je voulais un peu à ce que l'invité nous donne un peu si l'OIM a ses bureaux ou ses succursales sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire sur les 26 provinces qui constituent la RDC. La deuxième question, que l'invité nous dise un peu dans l'acte constitutif de l'OIM. L'OIM agit en amont ou en aval? Maintenant, voilà un témoignage que je vous donne, Monsieur Jody. Sur la ville de Mbujimayi, c'est en face, je suis d'ailleurs, c'est en face du gouvernorat. Il y a, c'est par rapport aux événements qui a eu lieu, qui a frappé Kananga de Kamwena en 2016. Il s'est fait que nous avons, il y a deux semaines, ces familles-là, ils étaient au moins nombreux. Ils sont logés en belle étoile juste en face du gouvernorat du province du Kasaï oriental. Alors, c'est là que je voulais savoir à l'invité, est-ce l'OIM a-t-il un contrôle effectif ou il y a certains groupes qui l'échappent? Et si cela l'échappe, est-ce le gouvernement aussi provincial n'est-il, ne peut pas faire quelque chose? Parce que ces familles-là sont là, je vous dis, maintenant une semaine, ils vivent dans la belle étoile, rien n'est fait. C'est comme si nous n'avons pas des autorités sur la ville de Mbujimayi. Qu'est-ce que l'invité peut nous dire par rapport à ça? Voilà un peu ma contribution, je dis et je vous remercie.
Bien, merci Monsieur Joubert, vous avez la parole.
Oui, je vais commencer par la dernière question. Je pense que les agences et les ONG, quand ils arrivent dans un pays, ce n'est pas pour venir prendre la place du gouvernement, mais c'est de venir appuyer le gouvernement dans les activités qu'il est en train de mettre en œuvre. Donc, il faudrait comprendre aussi que dans les activités d'appui, généralement, il y a la part et la responsabilité du gouvernement. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas été fait ou quelque chose où ça n'a pas été fait à tout le monde, ça revient directement à la faute de l'agence. Mais il faudrait aussi voir un peu quelle est la part du gouvernement. Mais aussi, il faut savoir que nous faisons face à plusieurs besoins, mais avec des ressources très limitées. Et c'est pourquoi il y a un principe humanitaire qui dit que on n'assiste pas les statuts de la personne, mais on assiste la personne en besoin. Vous pouvez être tous ensemble dans un même statut, mais vous n'avez pas le même degré de vulnérabilité en besoin. Alors, face à cette difficulté des ressources, généralement, on cible les personnes qui sont vraiment à besoin pour pouvoir assouvir tant soit peu leurs souffrances. Les deux questions de notre premier intervenant, c'est de demander aux IDP de pouvoir retourner parce que dans les zones de retour ou dans leurs zones de provenance, il y a déjà la sécurité et la calmie.
Oui.
Je pense que je l'avais très bien dit. Au départ, dans toute chose qui est faite, il y a le caractère volontaire de la personne à pouvoir retourner chez lui ou pas. Et c'est ce que j'appelle, comme quand j'ai dit, il y a ce qu'on appelle les solutions durables. Et généralement, les solutions durables, ce sont des solutions qui sont réfléchies dès le premier jour de déplacement de la personne. Il y a les solutions durables. Et parmi les solutions durables, nous avons trois options. Le retour dans la zone de provenance que l'auditeur est en train de prôner, que les gens puissent retourner.
Pour il aller cultiver le maïs.
Ça veut dire que...
Il dit, à suite au phénomène Kamwina Sapu, beaucoup de gens se sont déplacés pour aller vivre dans les centres urbains. Maintenant qu'il y a la paix, ces personnes peuvent aller retourner pour aller cultiver le maïs, d'après lui.
Oui, effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Dans les solutions durables, il y a ces trois options. Il y a le retour dans la zone de provenance. Il y a la réinstallation, ça veut dire tu retournes dans une autre zone différente de ta zone de provenance. Et il y a aussi l'intégration locale. Et tout cela se passe à travers la collecte d'intentions. Quand on pense que les mobiles de la crise ont cessé d'exister, on va vers les personnes qui se sont déplacées, on les sensibilise et on leur demande de pouvoir choisir de ces trois options. Alors la personne, parce qu'il y a un principe directeur qui protège la personne déplacée interne dans son pays, dit que la personne est libre, étant dans son pays, de choisir où il veut rester, généralement. Et bon, curieusement, là-bas, je comprends que la grande partie des gens ont opté pour l'intégration parce qu'en effet, il y a des gens qui effectivement ont quitté le village, ils ont embrassé une nouvelle vie, ils vivent maintenant dans la ville, ils ne veulent plus retourner au village. Ça c'est leur intention de pouvoir rester là-bas. Oui. Maintenant, il vient la partie du gouvernement de pouvoir aussi mettre en place des éléments incitateurs, des éléments facilitateurs pour que les gens retournent dans leur village et aller cultiver. Mmh. Ça devient maintenant une partie peut-être que le gouvernement peut prendre en charge pour pouvoir inciter ces gens à retourner. Mais l'Agence des Nations Unies ou les ONG ne peuvent pas demander aux gens de retourner, sinon ça serait déjà usé de force et d'influence.
D'accord. Alors, quelles sont...
C'est un peu la différence avec les Tanganyika. Mmh. Ici, la grande partie opte pour le retour dans la zone de provenance. 93% des gens déplacés disent qu'ils veulent rentrer chez eux. Donc, vous voyez que ça dépend d'un milieu à un autre. Et il revient encore au gouvernement de pouvoir mettre en place tous ces mécanismes, de favoriser, de faciliter ce retour dans les villages de provenance.
Voilà, vous avez dit qu'il revient au gouvernement de mettre des éléments incitateurs pour des éléments qui vont inciter les gens à retourner dans leur village. Quels sont ces éléments, par exemple?
Ici le contexte du Kasaï, je ne maîtrise pas très bien le contexte du Kasaï, mais bon, je pense que si les gens ne retournent pas chez eux, c'est parce que ils ont trouvé beaucoup plus d'opportunités dans la ville où ils se sont déplacés que là d'où ils viennent. C'est question de faire une évaluation et de voir quels sont ces types d'opportunités que le gouvernement peut aussi mettre dans leur zone de provenance pour que ces gens, au-delà de ces opportunités, puissent aussi bénéficier ou exploiter leurs terres agricoles qu'ils ont laissées là-bas. Tu vois un peu.
Oui.
Si par exemple je suis dans la ville, je sais pas, de Chicapa ou dans la ville de Mbujimayi, avec électricité 24 heures sur 24 que je n'ai pas chez moi, les gouvernements peuvent mettre en place une politique de pouvoir éclairer la zone rurale pour que les gens puissent quand même retourner chez eux. Si par exemple je trouve que les déplacements que j'ai connus facilitent à mes enfants de pouvoir étudier, accéder très facilement aux infrastructures éducatives, mais le gouvernement peut en créer davantage dans les zones rurales.
Pour D'accord.
que, effectivement, cette personne, tu peux lui demander de retourner, il sait que très facilement son enfant va étudier, et tu vois un peu.
D'accord.
Donc, il y a des éléments quand même que le gouvernement peut mettre en place pour inciter les gens à retourner.
À retourner dans leur milieu d'origine.
Avoir la même qualité de vie.
D'accord. On va accueillir deux autres auditeurs. Joseph, il est le président des déplacés du site Kaseke, dans la périphérie des Kalemie. Nous avons également Jires qui nous appelle depuis Boutembo. Monsieur Joseph, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Dites-nous par rapport à votre situation dans le site. Vous êtes là depuis combien d'années? Comment vous vivez? Est-ce que vous comptez retourner dans votre milieu d'origine?
Oui, merci beaucoup pour cette question. Nous sommes ici dans le site de Kaseke depuis le 19 septembre 2016. Moi, je suis déplacé venu du territoire de Nyanzou, précisément dans la localité de Mabidi. Alors, pour nous déplacer de là jusqu'à Kalemie, nous avions pris le train jusqu'ici.
nous sommes allés nous présenter au gouverneur, au gouvernement à cette époque-là. Le gouvernement avait, nous avait accordé un espace où nous avons érigé le site. C'est là où nous vivons même jusqu'à aujourd'hui. Pour la vie en général dans les sites, la vie n'est pas bonne, vous savez, c'est aussi une vulnérabilité. Nous sommes en train de vivre au détriment des assistances. Quand on nous assiste, là, la vie est un peu moyenne, mais ici, il n'y a pas d'assistance, la vie était ratée. Nous avons les différentes assistantes, les différentes ONG qui nous ont assistés. Et pour les détailler tous, bon, je ne pouvais pas arriver à citer toutes les ONG qui nous ont...
D'accord, Monsieur Joseph, est-ce que vous comptez retourner à Niouzou?
Bon, je ne... effectivement... vous dites Monsieur Jobert ou Monsieur Joseph?
Non, Monsieur, j'adresse la question à Monsieur Joseph, le président des déplacés du site Kasseke. Est-ce que vous êtes dans ce site-là depuis 2016? Est-ce que vous avez toujours envie de retourner chez vous à Niouzou?
Bon, moi, je ne pense pas y retourner parce que je suis encore traumatisé suite aux différents pertes que j'ai connues. Par exemple, j'ai connu des pertes en Niger. Il y a mes frères qui sont morts au cours de ces conflits ici, et aussi j'ai perdu beaucoup de ce qui me servait dans la vie, et j'ai perdu deux machines tronçonneuses, j'ai perdu beaucoup d'histoires là, pour aller maintenant recommencer la vie et voir les gens qui m'ont créé la vie que je suis en train de mener aujourd'hui, c'est difficile, c'est ainsi que je suis en train de solliciter au gouvernement provincial et aux autorités locales si ça pourrait être possible pour que je sois intégré. Mais à Niouzou, il est parti pour le moment. Il n'y a pas que Niouzou est composé des deux territoires, des deux collectivités. Il y a les collectivités de Sirukuga et aussi les collectivités de Rukuga.
D'accord. Donc, il y a une partie, il y a certaines collectivités qui sont déjà pacifiées, mais vous ne comptez plus retourner à Niouzou à cause de tout ce que vous avez vécu. Vous avez perdu certains membres de votre famille et vous n'avez plus rien. Donc, vous demandez l'assistance du gouvernement. Merci. On va donner la parole à Jirès de Boutembo. Bonjour, Jirès. Jirès, vous êtes à Boutembo. Bonjour. Il n'est plus là. Monsieur Joubert, vous avez la parole.
Oui. Je voudrais effectivement aussi revenir sur ce que Monsieur Joseph a dit. Il y a, comme je l'ai dit dans les options des solutions durables, l'intégration locale. Il y a des gens qui souhaitent s'intégrer localement ou aller ailleurs, effectivement, parce qu'ils ont vécu des atrocités dans leur milieu de provenance. Il y a des endroits où, par exemple, la famille a vu enterrer ses membres vivants, les membres de la famille vivante et tout. Donc, après, c'est un peu difficile à ces gens de pouvoir encore retourner et revivre une vie normale dans ces villages de provenance. Et tout ça fait partie peut-être du lot, par exemple, que notre auditeur du Kassai devait aussi prendre en compte pourquoi les gens ne veulent pas retourner dans leur zone de provenance et ils souhaitent rester dans cette ville-là. Donc il y a tous ces éléments qui entourent la décision de la personne déplacée à pouvoir retourner chez eux. Et quand on comprend très bien ces éléments, très facilement on peut mettre en place des stratégies des réinsertions sociales, des stratégies de cohésion sociale, des stratégies d'intégration sociale. Très facilement, on peut le mettre en place. Sinon, si on va juste de façon théorique et tout, pouvoir mettre des stratégies en place pour des cohésions, ça ne marchera jamais. Et il faudrait aussi savoir que, comme je l'ai dit au départ, que nous sommes venus en appui au gouvernement. Donc il y a une grande partie que le gouvernement doit prendre en charge. C'est une couche de la population congolaise. Et le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Et nous venons en appui à ce que nous pouvons mettre en place pour effectivement appuyer le gouvernement.
D'accord.
Je voulais profiter de l'occasion pour effectivement m'a posé la question de savoir le lien entre OIM, le ACER, la DGM.
Oui.
Je voulais dire à l'auditeur que au niveau global, OIM et le ACER travaillent ensemble. Au niveau global, OIM et le ACER travaillent ensemble. Et dans chaque province, il y a ce qu'on appelle un cluster un cluster, c'est comme un secteur, c'est un regroupement des coordination et gestion des sites. Et généralement, OIM et le ACR sont des collides. Donc, il y a cette communication régulière entre OIM et les ACR sur la gestion des personnes déplacées et même sur la gestion des migrants. Et pour information, c'est aussi de dire que OIM a des partenariats généralement avec le gouvernement. OIM, c'est une organisation intergouvernementale et on travaille en étroite collaboration avec la DGM. Et toutes les stratégies mises en place au niveau des frontières et tout, c'est discuter et c'est travailler en étroite collaboration avec la DGM. Parce que en fait, on aide les États à renforcer leurs structures et leurs procédures de gestion des frontières dans les migrations et réduire aussi les migrations irrégulières et les trafics illicites des migrants. Vous savez, actuellement, il y a ce qu'on appelle la traite de la personne, avec tout ce qu'il y a comme trafic des gens, des migrants. On renforce la direction générale des migrations pour pouvoir être à mesure de gérer tous ces cas-là.
Monsieur Joubert, aujourd'hui, on s'est beaucoup plus penché sur les migrants, les migrants forcés, c'est la migration interne. Ben, je veux parler des déplacés internes. On aura l'occasion prochainement de parler, voilà, de ceux qui ont immigré pour des raisons économiques, ou bien parler aussi de toutes ces formes de des pratiques dont vous faites allusion. Ben, pour l'instant, on s'arrête là aujourd'hui, Monsieur Joubert Okengwa. Je rappelle que vous êtes chef de bureau de l'OIM dans les Tanganyika. Merci et à la prochaine.
Merci à vous, Jody Kachama, et à la prochaine.